Bonsoir à tous. La fin sans doute d'une énigme judiciaire qui dure depuis 17 ans. Michel Fourniret reconnaît le meurtre d'Estelle Mouzin, cette fillette disparue en 2003. Le bilan du coronavirus en France passe à 11 morts et 716 cas de contamination. Reportage dans ce journal au service des urgences de Mulhouse dans le Haut-Rhin, département avec l'Oise, le plus touché par l'épidémie. Malgré la progression de la maladie, le départ de Paris-Nice, grand rendez-vous cycliste, est maintenu demain dans les Yvelines. Mais avec de nombreuses précautions. Précautions encore face au virus au Vatican. Le pape fera sa prière dominicale par vidéo et non en public. Hachette renonce à publier les mémoires de Woody Allen, les raisons de cette décision et les réactions qu'elle suscite avec Ilana Morioussef. Comme tous les samedis, Christine Siméon, La Vie Connectée. Ce soir, comment lutter contre l'intimité des adolescents dévoilés sur Internet.
France Inter.
Est-ce la fin du mystère entourant la disparition d'Estelle Mouzin ? Cette fillette de 9 ans n'a plus donné signe de vie depuis son retour de l'école à Guermantes, en Seine-et-Marne, le 9 janvier 2003. Son père n'a jamais abandonné les recherches et a avancé la piste Fourniret à plusieurs reprises. Michel Fourniret, violeur et tueur en série, déjà condamné pour les meurtres de 8 adolescentes et jeunes femmes, devant une magistrate qui enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, Fourniret est passé aux aveux cette semaine. Ariane Grissel, bonsoir.
Bonsoir.
Il affirme être celui qui a fait disparaître et qui a tué Estelle Mouzin.
Ah oui, des aveux obtenus par la juge qui a repris le dossier l'été dernier. La piste Fourniret a été explorée dès l'arrestation du tueur en série en juin 2003. Mais l'homme avance très vite un alibi. Il assure qu'il était chez lui à Sarcustine en Belgique ce 9 janvier 2003, le jour de la disparition d'Estelle Mouzin. Les relevés téléphoniques confirment qu'un appel a été émis depuis son habitation à son fils qui n'a pas décroché. En novembre dernier, cet alibi s'effondre. L'ex-femme de Michel Fourniret, Monique Olivier, confie à la juge que c'est elle qui a passé ce coup de téléphone, que Michel Fourniret n'était pas chez lui au moment de la disparition d'Estelle Mouzin. Alors est-ce que le tueur en série s'est senti acculé ? Est-ce qu'à 77 ans, il a voulu alléger sa conscience ? Difficile de déterminer pourquoi cet homme passe aujourd'hui aux aveux, lui qui est décrit comme manipulateur et particulièrement pervers.
Ariane, il faut cependant rester prudent face à ces aveux de Michel Fourniret.
Oui, ça fait 17 ans que le tueur en série joue au chat et à la souris avec les enquêteurs dans ce dossier, multiplie les sous-entendus, puis les dénégations. Ce qui compte avant tout pour lui, on a pu le constater au cours de ses procès, c'est d'être au centre de l'attention, de se sentir supérieur à ses interlocuteurs. Le détail de ses aveux n'est pas connu à ce stade, mais les enquêteurs vont maintenant faire des vérifications et surtout essayer de retrouver le corps de la fillette. Pour cela, ils vont devoir se fier aux indications d'un homme chez qui un expert a noté une évolution démentielle pour des faits vieux de 17 ans. Les proches d'Estelle Mouzin veulent en tout cas croire en ses confessions. Eux qui ont toujours souligné que Michel Fourniret n'a jamais reconnu un crime qu'il n'a pas commis.
Ariane Grissel, la disparition d'Estelle Mouzin, l'affaire Fourniret, plus de 17 ans d'enquête, c'est à lire sur franceinter.fr. Le bilan du coronavirus en France ce soir, 716 personnes contaminées, 2 personnes supplémentaires sont décédées dans les Hauts-de-France et en Normandie. Au total, on compte 11 morts depuis le début de la propagation du virus. Les personnes âgées sont les plus vulnérables et doivent être protégées. C'est ce que rappelle la Direction générale de la Santé. Elle recommande d'éviter que les enfants de moins de 15 ans leur rendent visite. 155 000 élèves dans l'Oise et 127 000 dans le Haut-Rhin sont concernés par la fermeture pendant au moins 2 semaines des écoles. L'Oise et le Haut-Rhin sont les départements les plus touchés par la maladie. Julie Pietri se trouve à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Elle est en direct avec nous ce soir. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Julie, vous vous êtes rendue aux urgences du grand hôpital de Mulhouse, l'hôpital Émile Muller.
Aux urgences, les médecins, les infirmiers fonctionnent habituellement beaucoup aux gestes, aux mimiques, aux expressions du visage. Mais ici, à Mulhouse, ces visages sont recouverts de masques, une précaution nécessaire pour le docteur Noisé, chef de service des urgences.
Comme on a un nombre d'infectés quand même relativement important, je préfère que tout le monde porte un masque en continu parce que la première chose, c'est de protéger le personnel pour éviter qu'il soit malade et qu'on soit en difficulté pour fonctionner sur les semaines à venir. Et je vais essayer de vous trouver un médecin.
Viens voir,
en voilà un, par exemple.
Ismaël, hein, c'est toi qui es à la barre aujourd'hui.
Oui, je suis le docteur Ismaël Saïn, médecin urgentiste de garde aujourd'hui aux urgences de Mulhouse.
C'est lui qui nous accompagne dans l'unité Covid, une partie des urgences isolées qui reçoit spécialement et uniquement les patients infectés.
Voilà, donc là on rentre et chaque patient a un box dédié. Et donc ça c'est des patients qui sont arrivés via le SAMU.
On voit une dame là par exemple qui tousse pas mal, qui a l'air d'être en difficulté respiratoire.
Oui, elle attend son lit d'hospitalisation. On va se retrouver probablement submergé. C'est possible. Et le germe peut être partout, il est dans l'air, il est sur les surfaces. On est en zone bactériologique maintenant, enfin virologique en tout cas.
Ce service dont les personnels reviennent régulièrement en dehors de leurs heures de travail pour donner un coup de main, et pourtant en grève depuis avril 2019, manque de moyens. Les banderoles sont toujours accrochées à l'entrée.
Reportage de Julie Pietri aux urgences de l'hôpital Émile Muller à Mulhouse avec les moyens techniques de François Rivaland. L'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes dans toute la France est prévue jusqu'au 15 avril et non plus jusqu'au 31 mai, comme annoncé dans un premier temps, ce qui rassure les organisateurs du Festival de Cannes du 12 au 23 mai ou du Printemps de Bourges du 21 au 26 avril. Le préfet de Seine-Saint-Denis, où 12 cas ont été rapportés, interdit un rassemblement à caractère évangéliste prévu ce week-end au Blanc-Mesnil. De son côté, le préfet de police de Paris a décidé d'interdire le mondial du tatouage prévu du 13 au 15 mars à la Grande Halle de la Villette. Une députée atteinte du coronavirus a été hospitalisée aujourd'hui, ce qui porte à 3 le nombre de cas recensés à l'Assemblée nationale, dont 2 députés. Un troisième employé de la RATP a été infecté par le coronavirus, un conducteur de bus. Il a été mis en quarantaine. Emmanuel Macron réunira demain à 18h à l'Élysée un conseil de défense sur la crise du coronavirus. Selon son entourage, le passage au stade 3 de l'état d'alerte n'est a priori pas prévu. Alors face à cette maladie, les pharmaciens vont pouvoir créer eux-mêmes une solution hydroalcoolique pour permettre aux patients de se laver les mains. La solution sera composée avec de la glycérine, de l'eau oxygénée et de l'alcool. Gilles Bonnefond est président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Il ne craint pas de manquer de tous ces ingrédients. Il redoute en revanche une pénurie de flacons en plastique. Il l'a dit à Jules Dequisse de France Info.
On a très peu de flacons aujourd'hui qui sont disponibles. Le prix du flacon est en train de flamber. Et ça nous pose un énorme problème aujourd'hui parce que le coût du flacon coûte presque plus cher que la matière première et le temps de fabrication. Et on va être certainement amené à voir comment on pourra re-remplir des flacons qui vont être ramenés par les patients. Donc on est en train de travailler là-dessus avec le ministère de la Santé. Enfin, l'objectif, c'est pas de faire de l'argent là-dessus, bien au contraire, c'est d'apporter une solution pendant que l'épidémie est en train de monter, de pouvoir aider la population à se protéger en se lavant les mains avec une solution efficace.
Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Demain, dans les Yvelines, grand rendez-vous cycliste, le départ de Paris-Nice, 78e édition. Départ maintenu, Antoine Denis, mais avec toute une série de restrictions en raison du coronavirus.
Il y aura davantage de barrières installées le long des routes. Des équipes ont aussi demandé à ce qu'on ne distribue pas de communiqués en papier. Les journalistes, eux, n'ont pas d'accès physique avec les coureurs, ni en conférence de presse, ni en zone mixte. Et fait inédit, les interviews ont dû être réalisées par téléphone la veille du départ. Malgré cette décision, Thibaut Pinot, le grimpeur de la Groupama FDJ, refuse de tomber dans la psychose.
Je sens pas vraiment de panique autour de moi. Dans une région qui est assez peu confrontée à tout ça, donc voilà, ce qui se passe entre la télé et la réalité du terrain, c'est un peu disproportionné. Mais en tout cas, j'ai jamais eu peur de venir ici par rapport au virus.
Conséquence directe de l'épidémie, 7 équipes se sont retirées de la course, notamment Jumbo-Visma, Ineos ou encore Astana. Parmi elles, le Colombien Egan Bernal, tenant du titre et vainqueur du Tour de France, est donc absent, de même que le Slovène Primoz Roglic. Romain Bardet, inscrit de dernière minute, regrette ce plateau amoindri.
Il y a un plateau de choix qui s'annonçait. Cette équipe pour le Tour qui sont pas là, non des moindres. Donc forcément, la course va être quelque peu un petit peu dénaturée tout de même, faut pas se le cacher.
Malgré ce contexte, il y aura du beau monde au départ. Quintana, Nibali et Sagan pourraient animer la course, tout comme les Français Alaphilippe, Pinot, Bardet ou Boigny. De quoi penser un peu plus à la course et un peu moins au virus.
Antoine Denis sur le départ de Paris-Nice demain dans les Yvelines. Le marathon de Barcelone prévu le 15 mars est reporté au 25 octobre. Il devait accueillir 17 000 coureurs. Le bilan de l'épidémie ce soir dans le monde, 104 900 cas d'infection dans 95 pays, 3 550 personnes sont mortes. En Italie, pays le plus touché en Europe avec 5 800 cas et 233 décès, le gouvernement décide d'envoyer 20 000 médecins, infirmiers et aides-soignants en renfort dans les hôpitaux. Au Vatican, demain, par précaution, le pape François ne s'adressera pas à la foule depuis sa fenêtre, surplombant la place Saint-Pierre. Il fera sa traditionnelle prière de l'Angélus en vidéo depuis sa bibliothèque à Rome. Olivier Tosseri.
Pour enrayer la diffusion du coronavirus, le Vatican ne se voue pas aux saints, mais aux mesures de précaution et aux moyens modernes de communication. La maladie a touché le plus petit État du monde, dont tous les services de santé ont été temporairement fermés pour être désinfectés. La fermeture des musées vatican est également envisagée. Les rumeurs selon lesquelles le pape était atteint par le coronavirus ont été démenties et il ne souffre que d'un simple rhume, mais il a fortement réduit ses activités, ses apparitions publiques. Il a de nouveau, via Twitter, exprimé sa proximité avec les personnes contaminées et les familles des victimes, ainsi qu'avec tous les médecins et les infirmiers mobilisés. La traditionnelle prière dominicale de l'Angélus depuis son balcon, ainsi que l'audience générale du mercredi matin place Saint-Pierre seront retransmises en direct en vidéo sur la chaîne Vatican News, le principal média audiovisuel du Saint-Siège, pour éviter les rassemblements et ainsi les risques de contagion. Par ailleurs, jusqu'au dimanche 15 mars, les messes à Sainte-Marthe, la résidence hôtelière où vit le pape, sont annulées. Cela fait d'ailleurs plus d'une semaine qu'il ne l'a pas quitté. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
En Chine, une trentaine de personnes sont ce soir bloquées sous les décombres d'un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine contre le coronavirus. Il s'est effondré. L'hôtel se trouve dans la province du Fujian. Plus de 700 sauveteurs ont été déployés sur place avec des engins de chantier et des grues pour porter secours à toutes ces personnes bloquées sous les décombres.
France Inter. Pierre Veil.
Assailli de critiques, le groupe Hachette annule finalement la publication début avril des mémoires de Woody Allen, un livre de plus de 600 pages. Woody Allen est accusé d'avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive, Dylan Farrow, ce qu'il a toujours démenti. La justice américaine lui a donné raison et l'a blanchi à deux reprises. Mais chez Hachette, aux États-Unis, cette publication a jeté le trouble. Des employés de l'entreprise ont manifesté jeudi leur colère devant les bureaux de l'éditeur à New York pour dire non à la parution de ce livre. Hachette a donc cédé, ce qui provoque, Ilana Mor-Youssef, une sérieuse polémique, notamment en France, où ses mémoires de Woody Allen devaient être publiées chez Stock le 29 avril.
Dès les premières heures du jour, ce matin, le portable de Manuel Carcassonne, le PDG des éditions Stock, s'est mis à carillonner. Au téléphone, la moitié des patrons de l'édition française, scandalisés, au nom de la liberté de publier, du recul du groupe Hachette aux États-Unis. Les 650 pages de mémoire de Woody Allen étaient quasiment prêtes, la traduction était achevée, mais voilà l'éditeur français privé des droits. Hachette les a restitués à Woody Allen. Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, en France, plusieurs éditeurs importants souhaitent publier le livre, mais il n'y a pas que la France. En Italie, en Espagne, en Allemagne, partout où les droits avaient été vendus, la situation est la même. C'est maintenant Woody Allen et son agence, ICM, qui ont les cartes en main et qui décideront à qui ils veulent vendre et dans quelles conditions, sachant qu'aux États-Unis, compte tenu du contexte, l'ouvrage a eu du mal à trouver preneur. Ni Woody Allen ni son agent n'ont encore réagi publiquement, mais selon un éditeur français, il pourrait réclamer à Hachette des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ilana Mor-Youssef. Depuis plus d'une semaine, la Turquie pousse les migrants qui fuient la guerre en Syrie à se rendre à la frontière avec la Grèce pour entrer dans l'Union européenne. Le gouvernement turc veut ainsi protester contre le peu de soutien des Européens dans la guerre qu'ils mènent contre le régime syrien. Aujourd'hui, le président turc Recep Erdogan décide une restriction. Les migrants n'ont pas le droit de traverser la mer Égée. Comment interpréter cette décision alors que le président turc doit se rendre lundi à Bruxelles pour s'expliquer sur sa politique face aux responsables européens? Réponse avec notre correspondante en Turquie, Anne Andlauer.
Dans une série de messages publiés sur son compte Twitter, le service des gardes-côtes turcs fait donc une mise au point. Sur ordre de Recep Tayyip Erdogan, tous les départs vers les côtes grecques seront stoppés en mer Égée. Le communiqué officiel invoque les dangers que cette traversée fait courir aux migrants. Il précise toutefois que ces annonces ne changent rien, je cite, « au principe consistant à ne pas intervenir pour empêcher les migrants de quitter la Turquie ». Cette semaine déjà, le président turc avait laissé entendre que sa nouvelle politique de portes ouvertes concernait en priorité la frontière terrestre. En réalité, ces derniers jours, le flux semble s'être tari face aux heurts à répétition avec les forces grecques. Alors qu'il doit se rendre à Bruxelles lundi, le président turc pourrait vouloir se ménager une marge de négociation avec les dirigeants européens. La présidence turque précise qu'il entend notamment discuter d'une mise à jour de l'union douanière entre la Turquie et l'UE et de l'ouverture de nouveaux chapitres des négociations d'adhésion. Autant de promesses sans lendemain qui figuraient dans le pacte migratoire signé en 2016 et que Recep Tayyip Erdogan espère peut-être encore voir se concrétiser.
Anne-Andlauer, Istanbul, RFI pour France Inter.
La dernière page de ce journal, c'est l'heure de la vie connectée avec Christine Siméone. Bonsoir Christine.
Bonsoir Pierre.
Christine, vous vous intéressez cette semaine à un poison qui mine la vie des adolescents, le sexting. Cette pratique consiste à dévoiler les photos intimes à un public auquel elles ne sont pas destinées.
Savez-vous ce qu'est le sexting primaire et le sexting secondaire ? Dans leur ouvrage « Les blessures de l'école » paru aux éditions ESF Sciences Humaines, Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier reprennent ces termes de sexting primaire et secondaire et détaillent les solutions possibles pour les personnels enseignants et les parents qui entourent les victimes de sexting. Le sexting primaire, c'est tout simplement ce qui se passe dans le cadre de l'intimité d'une relation entre deux personnes qui vont échanger des photos, des vidéos et en tout cas des contenus intimes qui les regardent et ne regardent personne d'autre. Le sexting secondaire concerne en revanche la diffusion non consentie de ces images personnelles. Ce phénomène inquiète beaucoup les professionnels de l'éducation qui estiment que le pic de ce genre de pratique se produit au collège, en classe de 5e.
Christine, et la question que tout le monde se pose, c'est que faire pour aider un adolescent victime de ce dévoilement abusif ?
Il faut l'aider, bien sûr, car les blessures psychologiques peuvent être profondes, on le sait. Écoutez la réponse de Marie Cartier, experte sur le sujet auprès de l'Éducation nationale.
Ce qui va faire que ce n'est pas trop dangereux, c'est qu'il y ait immédiatement un soutien inconditionnel des proches, d'une part, donc tout ce qui est famille, tout ce qui est personnel de l'établissement scolaire, de manière unanime, une attitude parfaitement soutenante et non jugeante. Et évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un maximum de jeunes, de camarades qui se montrent en soutien de cet élève.
Le soutien des camarades et l'attitude non moralisatrice que suggère Marie Cartier, eh bien, c'est le plus difficile à obtenir.
On a vu, nous, en faisant passer des enquêtes auprès des collégiens, que majoritairement, les réactions sont quand même très vives et toujours condamnent la fille qui s'est fait piéger, qui a vu ces images diffusées, et c'est elle qui est condamnée, c'est elle qui est traitée de tous les noms. Et ça, c'est terrible. Parce que ce qu'on a pu voir aussi, quand même, c'est que les réactions les plus virulentes, ça vient quand même des filles contre les filles. Le jugement des mères sur leurs filles, vous voyez, est très fort et très, très dur. Et
ce que dit Marie Cartier fait terriblement penser au syndrome de la jupe trop courte. Autrement dit, si on a diffusé tes photos intimes, eh bien, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à t'abstenir de les faire. Cette petite musique, on l'a bien entendue récemment avec l'affaire Griveaux. Et il n'y a pas de raison que le message ait échappé aux ados et à leurs parents.
Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'au travers de ce genre de critiques, lorsqu'on s'amuse à critiquer Benjamin Griveaux, à lui reprocher son imprudence, à lui reprocher le fait qu'il n'ait pas été conscient des risques, etc. Mais à un autre niveau logique, on condamne tous ceux qui vont avoir cette imprudence, tous ces jeunes qui vont être imprudents. On ne peut pas ne pas être imprudent quand on est jeune. Et c'est grave, parce que ça veut dire que ce message-là, il va arriver aux oreilles de nos jeunes, il arrive aux oreilles des parents de nos jeunes, et ça, c'est ce qui les détruit. Le traumatisme est une chose, le fait d'être en plus condamné, voyez, par une fois que ça nous est arrivé, par l'environnement proche ou moins proche, c'est ce qui fait que le traumatisme sera grave, en fait.
Ce que Marie Cartier rappelle par ailleurs, c'est que les auteurs de ces dévoilements abusifs à l'école, au collège, au lycée, sont eux-mêmes à l'âge adolescent et en quête d'écoute.
Le fléau du sexting, Christine Siméone, la vie connectée, à réécouter sur franceinter.fr. Le temps demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Nous avons rendez-vous avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Demain, maintien d'un temps sec sur les régions du quart sud-est, de l'est du Rhône au golfe du Lion, mais sous un ciel de plus en plus nébuleux en seconde partie de journée, tandis que sur le reste du pays, on notera le retour de la pluie suivie d'averses. Une perturbation va rapidement s'installer en fin de nuit sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse Normandie. En journée, elle va progresser vers les frontières de l'est, atteignant en soirée l'Auvergne, le Grand Est et les portes du Roussillon, tandis qu'à l'arrière, c'est un temps instable avec giboulée qui va s'installer sur un large quart nord-ouest du pays, des averses plus marquées, parfois orageuses, de la Bretagne à l'Artois, poussées par un vent turbulent à 80 km à l'heure, près de la Manche et du Finistère, au nord de la Gironde, dans des températures proches de 0 moins 1 degré en fin de nuit vers l'Alsace, la Bourgogne et en Rhône-Alpes, de 5 à 10 ailleurs. En cours d'après-midi, les maximales vont globalement afficher 1 à 2 degrés de plus qu'aujourd'hui.